Good morning, Lee.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la présentation des résultats annuels 2021 du groupe Legrand. L'ensemble des participants sont en mode écoute. Il y aura ensuite un moment d'échange questions-réponses. Pour votre information, sachez que cette conférence est enregistrée. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Benoît Cocor, PDG, et Monsieur Franck Lemery, directeur financier. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Franck Lemery, Ronan Marc et moi-même sommes très heureux de vous accueillir à la présentation par conférence téléphonique et webcast des résultats du groupe annuel 2021 du groupe Legrand. Nous avons aujourd'hui publié notre communiqué de presse, les résultats financiers ainsi qu'un slideshow auxquels nous ferons référence. Ces documents sont disponibles sur notre site web. Après quelques remarques d'introduction, Franck et moi-même entrerons un peu plus dans les détails de ces résultats annuels 2021. Je vais commencer par les pages 4 et 5 avec quatre messages à retenir. Tout d'abord, des résultats qui ont battu des records en 2021, une performance extra-financière solide. Troisièmement, notre groupe déploie sa feuille de route stratégique activement. Et quatrième message, en 2022, nous visons une croissance de plus 5 à plus 11 % à taux de change constant avec une marge opérationnelle ajustée d'environ 20 %. Je vais passer maintenant aux pages 7-8. Avec le chiffre d'affaires, avec des résultats exceptionnels qui présentent une fois encore la résilience dans un monde en pleine évolution et notamment compte tenu de la situation de la pandémie et de la très forte pression sur les chaînes d'approvisionnement qui se sont renforcées à partir du troisième trimestre. Avec une augmentation du chiffre d'affaires de plus 14,7%, soit 5,6% sur deux ans. Cette performance a été pilotée par une croissance organique de 13,6%, c'est-à-dire 3,7% sur deux ans. Elle reflète en particulier les positions très concurrentielles du groupe sur ses marchés ainsi que le succès de ses initiatives de développement. L'impact d'un périmètre plus large de consolidation était de plus 3% sur la base des acquisitions annoncées à l'exclusion des MOS qui n'est pas encore en closing. Cet impact devrait être d'environ 2% pour l'année 2022. L'effet du taux de change sur le chiffre d'affaires était de moins 2% sur l'année. Sur la base des taux de change moyens en janvier 2022, l'effet total pour l'année complète sur le chiffre d'affaires de ce taux de change serait d'environ 2% en 2022. Page 8, vous trouverez les messages clés par zone, notamment les résultats commerciaux avec les produits connectés, les solutions pour les data centers, l'efficacité énergétique ainsi que avec un secteur résidentiel très solide. À partir de ces commentaires principaux sur le chiffre d'affaires, je vais donner la parole à Franck qui va vous donner plus de détails sur la performance financière. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je commence par la page 9 pour parler de la marge opérationnelle. Cette marge était à 20,8%, soit une augmentation de plus 1,8 point à partir de 2020. Cette augmentation de la rentabilité s'est produite malgré une inflation de plus de 11% sur les composants et les matières premières au cours de cette année, dont 17% d'augmentation au quatrième trimestre. Rien qu'au quatrième trimestre, 17%. Cela reflète une gestion bien ciblée et sélective de toutes les dépenses ainsi que des initiatives de tarification judicieuses. Après ces acquisitions, cette marge opérationnelle ajustée pour l'année s'élève à 20,5%. J'en arrive maintenant à la page 10. S'agissant du résultat net de part du groupe, avec 904 millions d'euros, ce résultat a connu une croissance de 32,8% sur l'année, c'est-à-dire plus 8,3% par rapport à 2019. Le pilote principal s'enregistre dans le résultat opérationnel avec des tendances positives également dans les résultats financiers. Nos impôts ont augmenté logiquement malgré un taux d'imposition qui a baissé. Si j'en viens à la page 11, vous verrez quelques commentaires au sujet de la trésorerie, le cash et le bilan. En tant que pourcentage du chiffre d'affaires, la marge brute d'autofinancement a augmenté de 0,6 points à 18,8% du chiffre d'affaires et elle s'élève à plus de 1,3 milliard d'euros. Le cash flow libre se tient à 13,6% du chiffre d'affaires en 2021, y compris une augmentation de besoins de fonds de roulement, notamment en ce qui concerne une couverture renforcée des inventaires et des stocks sous l'effet des pressions des chaînes d'approvisionnement. Enfin, un bilan solide avec une net dette sur un ratio dette nette sur EBITDA de 1,5. J'aimerais également souligner le fait que nous avons un résultat financier qui reflète aussi nos engagements climatiques et extra-financiers. Maintenant, page 12, j'en viens à une comparaison sur les deux dernières années. Comme vous pouvez le constater, le grand est tout à fait en ligne par rapport à ses objectifs moyen terme en termes de d'évolution des ventes de résultats et de cash flow. Page 13, nous allons proposer un paiement de 1,665 € de dividendes plus 16,2%, ce qui signifie que le ratio est à 50%. C'est tout à fait conforme aux objectifs à moyen terme. Ceci conclut les résultats financiers et je redonne la parole à Benoît. Merci Franck. Je vais maintenant vous présenter nos résultats extra-financiers, les résultats ESG 2021. Je vais aller super vite sur les diapositives, mais surtout n'hésitez pas à noter vos questions pour l'échange questions-réponses tout à l'heure. Nous avons lancé en 2019 notre quatrième feuille de route RSE qui couvre la période 2019-21, qui est structurée autour de 10 défis et qui contribue à l'atteinte des ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Page 16. Nous avons un taux d'accomplissement de 131% dans les trois domaines importants, environnement, personnes et écosystèmes. Sur la page 17, nous sommes très fiers d'avoir réduit dans le scope 1 et 2 nos émissions de CO2 de 28% et nous avons augmenté la part du nombre de femmes parmi nos managers de 18% sur ces trois années. Et vous pouvez voir, page 18, que notre taux d'engagement des employés est de 81% en 2021, soit une forte augmentation par rapport à l'enquête précédente de 2017. Sur les pages suivantes, pages 19 et 20, nous avons poursuivi également nos programmes de durabilité à long terme avec notre trajectoire carbone qui a été validée par le SBTI et se limite à 1,5 degré d'augmentation de température. Et comme vous le voyez, page 21, nous avons été reconnus par un grand nombre d'indices et de systèmes de classement. Page 22. Nous accélérons notre engagement ESG qui a commencé en 2004. Les principaux domaines de cet engagement seront un événement Capital Markets Day en ligne le 29 mars qui inclura notamment une présentation de notre cinquième feuille de route RSE 2022-2024. J'en arrive maintenant à la troisième partie de ma présentation, page 24, s'agissant du déploiement de la feuille de route stratégique de Legrand. Des pages 25 à 27, grâce à une R&D très solide, nous avons construit une réputation de produits bien conçus, fiables et innovants, et nous ajoutons constamment des solutions de valeur supérieure à nos catalogues. Sur les pages 28 et 29, Legrand présente une approche ciblée vers les segments à expansion rapide, les data centers, les produits connectés et les programmes d'efficacité énergétique. Les chiffres d'affaires de ces trois segments sont passés de 18% en 2015 à 31% en 2020 à 33% en 2021. Et cette croissance totale a été tirée par ces trois segments. Maintenant, page 30. Le domaine essentiel de croissance, les fusions-acquisitions. Nous avons annoncé deux nouvelles acquisitions en Europe. Emos avec un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros et Geiger avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Avec deux autres acquisitions qui ont été annoncées en juillet, de Ensto Building Systems et Ecotap, ces quatre entreprises représentent un chiffre d'affaires total annuel d'environ 250 millions d'euros. Maintenant, page 31, s'agissant notre perspective tirée par l'excellence opérationnelle, j'aimerais souligner l'application très agile Redesign to Cost and Supply qui est tout à fait adaptée à des conditions extrêmes, à une inflation des prix et une pression sur les matières premières en 2021. Page 33, dernier sujet de cette publication de résultats avec nos objectifs 2022. Nous allons poursuivre notre stratégie de développement responsable et profitable qui a été présentée dans la feuille de route stratégique. Si l'on tient compte des perspectives macroéconomiques actuelles et en supposant qu'il n'y aura pas d'aggravation sur les matières premières, Legrand vise à atteindre les objectifs suivants en 2022. Augmentation de son chiffre d'affaires de 5 à 11% à taux de change constant et une croissance organique de 3 à 7% et un effet de consolidation du périmètre qui se situerait entre 2 et 4%. Une marge opérationnelle ajustée d'environ 20% du chiffre d'affaires avec une marge qui se situerait à 19,9% et 20,7% entre les deux avant acquisition. En tenant compte du périmètre de consolidation de 2021 et une dilution des acquisitions qui se situerait entre moins 20 et moins 4 points de base. Nous visons également l'atteinte de 100% de nos objectifs RSE pour la première année de cette feuille de route 2022-2024, ce qui témoigne de notre approche tout à fait exemplaire et courageuse vis-à-vis des ESG. Je dois malheureusement vous quitter à 10h30 parce que j'ai un engagement auprès de la presse, mais bien entendu, Roland Marc et Franck Lemery sont tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions. Mesdames et messieurs, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez appuyer sur la touche 01 de votre clavier. Une question de Monsieur Supramanian du BS. Bonjour. Merci de me donner la possibilité de vous poser une question. En ce qui concerne vos tarifications, vos politiques de prix, quelles sont vos prévisions pour ce premier trimestre? Et avez-vous pu compenser cette crise de matières premières, sur les prix des matières premières aux premières parties de 2022. Ensuite, les coûts de l'énergie et de l'électricité ont fortement augmenté en Europe. Constatez-vous une augmentation de la demande pour vos produits de la gamme efficacité énergétique ou est-ce que cette question est un peu prématurée? Je vous remercie de votre question. S'agissant des tarifs et de la politique des prix, tout d'abord, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Le taux pour l'année 2021, c'était plus 3,5%, dont 5 plus 9% au quatrième trimestre. Donc, il y a eu une accélération sur l'effet prix, mais c'était plus 1,1% en premier semestre, 4,3% au troisième trimestre et 5,9% au quatrième trimestre. Notre stratégie a été d'augmenter graduellement, progressivement les prix pour compenser partiellement l'augmentation des prix des matières premières. Et je peux vous donner quelques exemples au sujet de ces prix. L'effet était de plus 11%, mais il était près de 17% s'agissant des matières premières. Donc 7%, 15% au troisième trimestre et 17% au quatrième trimestre. Donc cette accélération, cette augmentation des prix a partiellement compensé l'augmentation des prix des matières premières. Nous avons décidé d'être extrêmement prudents en matière de politique de prix. Et nous ne voulions pas augmenter les prix à un point où cela aurait posé des problèmes aux consommateurs. Et donc, nous n'avons pas totalement compensé en valeur. Il y a un différentiel d'environ 10 millions d'euros. Sur une base annuelle, il aurait fallu 10 millions d'euros pour compenser cette augmentation des prix des matières premières en valeur. Mais c'est une décision que nous assumons parce que nous sommes prudents, nous voulons préserver cette croissance et ce n'était pas forcément nécessaire non plus. Cela signifie également, du moins je le crois, que nous avons encore un peu de marge de manœuvre pour 2022 dans l'éventualité où il faudrait revoir cette politique de prix de façon à préserver notre profitabilité. Nous avons cette marge de manœuvre en termes de prix, mais une fois encore, nous allons être prudents en essayant de trouver toujours un bon équilibre entre la préservation de notre position concurrentielle et compétitive et en veillant à notre profitabilité. Dernier chiffre que je pourrais vous donner, mais qui n'a pas forcément de sens, c'est le report des prix et le coût des matériaux et des composants sur 2022. Pourquoi est-ce peu significatif? Parce que beaucoup de choses peuvent se produire en termes de prix d'entrée. Mais si l'on prend les prix actuels et que l'on considère 2022, ce serait plus 2%. Et pour les prix d'achat, on est proche de 5%. Mais ce ne seront pas les chiffres pour 2022 parce que les coûts ou les prix des matières premières et des composants peuvent augmenter ou baisser. Nous pourrons par conséquent ajuster nos prix en conséquence. Donc on ne peut pas prédire. Alors pour la deuxième partie de votre question, effectivement, il y a eu une augmentation des prix de l'électricité en Europe et dans d'autres pays. Et bien entendu, cela a des répercussions sur les bénéfices de Legrand, mais dans une mesure assez limitée, parce que c'est 0,5% de notre chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas un coût significatif, même s'il y a effectivement une augmentation qui a été ressentie. Et il est vrai, par ailleurs, que il faut procéder à des économies d'électricité. Cela devient une priorité pour beaucoup de personnes. Je peux vous donner quelques exemples, comme la France. Les dépenses moyennes en chauffage pour un ménage français, c'est 1 300 euros par an. Si ce montant augmente, cela exerce une forte contraintes budgétaires sur les ménages. Et donc, c'est un moyen pour que nos solutions permettent de procéder à des économies d'énergie par la vente de thermostats, par la vente de stations de bornes de recharge de véhicules électriques, etc., etc. Est-ce que l'on observe déjà ces répercussions? Ce que l'on appelle les segments à croissance les plus rapides, pas uniquement donc l'efficacité énergétique, mais aussi les produits connectés et les data centers. Ce sont des trois segments qui augmentent de manière organique et au-delà, mais au-delà du coût de l'électricité et le coût de l'énergie, je pense qu'il y a des tendances qui sont plus sur le long terme et qui vont permettre de soutenir la vente de ces produits, notamment par l'électrification des véhicules, la demande en termes de bandes passantes, de sécurité, des bâtiments, d'assistance à l'autonomie, etc., etc. Donc, une longue réponse à une question assez brève. Merci, merci beaucoup. Merci.
So we have another.
Nous avons reçu une autre question de Morgan Stanley. Je vous en prie, s'il vous plaît. Madame, bonjour, messieurs. Merci de m'accueillir. J'ai une première question concernant ce que vous avez dit sur votre slide. Vous avez dit que le non-résidentiel en Amérique du Nord s'est développé, mais pas jusqu'au niveau de 2019. Pourriez-vous éclairer ma lanterne? Nous sommes en dessous, mais de combien? Et en volume notamment. Quand je pense notamment à l'inflation que nous avons depuis 12 mois. Les éléments qui ont ralenti la reprise, pensez-vous qu'ils sont en train de disparaître aujourd'hui? Eh bien, bonjour Lucie. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Les ventes augmentent en une année, mais baissent par rapport à il y a 2 ans. Et si l'on met de côté, ou si l'on coupe en petite partie la performance, et sur 2 ans, les data centers ont vu une croissance à double chiffre et forte augmentation en 2019 par rapport à 2021 par rapport à 2019. Pour le résidentiel, il y a eu une croissance à 2 chiffres également en 2021 par rapport à 2019. Et en fin d'année, nous avons vu quelques faiblesses. Cependant, nous dirions que là, c'est dû au fait que nous n'avions pas assez de composants. Et nous avons perdu quelques millions de dollars en vente. Et en ce qui concerne le non-résidentiel, si l'on exclut les data centers, ça représente plus de la moitié de notre chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Et là, il y a eu une baisse à 2 chiffres pendant le premier semestre et simplement une baisse de 1 chiffre pendant le deuxième semestre. Donc, vous voyez une forme d'amélioration, même si nous ne sommes pas revenus au niveau, effectivement, de 2019. Combien de temps faudra-t-il maintenant pour cette reprise? Eh bien, nous ne sommes pas du tout inquiets en 2022. Nous pensons qu'il y a des facteurs qui vont nous aider à reprendre le marché du non-résidentiel aux États-Unis. Notamment, si vous regardez les statistiques officielles, c'est ce que vous voyez. Et parmi les facteurs qui pourraient nous aider, eh bien, à chaque fois, c'est le retour au bureau. Nous dépendons énormément de ce qui se passe dans les grandes villes américaines. Et dans ces grandes villes où, vous savez, il y a beaucoup de communautés technologiques et financières et beaucoup de personnes ne sont pas encore retournées au bureau depuis 2 ans. Et nous pensons qu'avec la crise de la COVID-19, qui est de moins en moins mortelle, ou plus facile à gérer, disons, nous pensons que le retour au bureau va arriver et ceci aidera au rebond du non-résidentiel américain. Donc, amélioration entre le premier semestre et le deuxième semestre, pas encore au niveau 2019 cependant, mais je dirais bon niveau de confiance. Cela va se passer dans les trimestres à venir. Merci beaucoup. Les chiffres que vous nous avez donnés, donc baisse de 2 chiffres pendant le premier semestre et 1 chiffre pendant le deuxième semestre, c'est en volume ou en valeur? En valeur. En valeur. Donc, bien sûr, la politique de prix nous aide. Nous avons pu augmenter quelques prix aux États-Unis. Bon, nous n'avons pas une augmentation de 8% des prix, c'est vrai, mais en tout cas, c'est basé sur la valeur du marché. Merci, merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Question de suivi concernant les coûts et les augmentations de prix. Vous venez de nous dire que vous avez perdu quelques ventes, un petit peu, en tout cas du côté composants, à cause des composants et du manque de composants. Aujourd'hui, en début 2022, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le pire est passé déjà, du côté composants et manque de composants? Et quelles seraient en positif net les augmentations de prix avec cette question de carry-over, de répercussion avec les initiatives que vous avez prises du côté augmentation des prix? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en 2022? Eh bien, il y a 2 questions là. Premièrement, le prix des matières premières et des composants, et ensuite, la disponibilité de ces composants. En ce qui concerne les prix, je ne sais pas du tout. Et comme d'habitude, nous sommes prêts à réagir d'une façon ou d'une autre. Cela dépend de l'évolution. Donc, je ne sais pas, franchement. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a un effet carry-over, répercussion, plus ou moins 5%. Ce ne sera pas le chiffre final. Hein. Ce sera peut-être un peu plus, un peu moins. En tout cas, je ne sais pas quel sera le chiffre, mais beaucoup de choses peuvent se passer. Je n'en sais rien du tout. Et ce qui compte chez Legrand, c'est notre capacité à réagir. Si c'est nécessaire, nous pouvons continuer à augmenter les prix. Nous avons augmenté les prix, mais pas beaucoup. Maintenant, ce qui concerne la disponibilité des composants, eh bien, la situation reste aujourd'hui difficile. La situation n'a pas empiré entre le T3 et le T4, donc pas de détérioration. La situation est cependant toujours difficile, mais cela dépend des composants. Par exemple, nous avons des améliorations côté acier, amélioration pour le cuivre, même si du côté stock, nous voyons que les niveaux de stock sont relativement bas, mais c'est difficile du côté aluminium. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a une baisse de capacité en Chine et la situation est difficile avec quelques plastiques. Il est difficile de s'approvisionner et les composants électroniques. En ce qui concerne les composants électroniques, c'est vrai que c'est là que les spécialistes pensent que la situation va perdurer pendant encore un certain temps. Vous voyez, la situation est encore difficile. Mais en tout, nous pensons que nous avons perdu des dizaines de millions d'euros du côté vente de produits. Et ceci, bien sûr, a un effet négatif sur nos familles de produits, les catégories qui ont beaucoup de composants électroniques. Par exemple, produits connectés. Mais c'est la vie. On doit gérer les choses. Nous l'avons bien géré, la situation en 2021, je dirais. Nous avons concentré nos efforts sur les relations avec les fournisseurs à long terme. Nous sommes très agiles pour trouver toutes les opportunités d'achat ici et là. Et nous avons le redesign to supply pour changer la conception de certains produits pour avoir plus de composants plus facilement disponibles. Voilà, toutes les choses très positives que nous avons faites. Je ne pense pas que nous ayons perdu des parts de marché parce qu'il y a un manque de composants. C'est ce que d'autres ont vu, malheureusement. Et c'est vrai, cependant, que c'est une difficulté, un point d'achoppement sur la route qu'il faudra surmonter. J'espère que j'ai répondu et en tout cas, il n'y aura pas trop de conséquences, je dirais, sur les segments qui se développent rapidement. Pendant 2022, c'est là où il y a le plus de composants électroniques qui sont inclus dans ces produits. Nous sommes habitués à naviguer dans ces eaux un peu troubles. Merci. J'ai encore une question de suivi, si je peux. Je crois que je n'ai pas vu ça dans les slides, mais qu'en est-il de Elliott, la gamme connectée? Vous avez généralement des chiffres de croissance organique, notamment pour cette activité. Eh bien, plutôt que de se concentrer sur Elliott, je parlerai plutôt des segments qui se développent le plus rapidement, qui ont été présentés la dernière fois en septembre. Eh bien, en pourcentage du chiffre d'affaires total, 29% en 2019, 31% en 2020 et 33% en 2021. Et donc, il y a eu une croissance de 18% en deux ans, alors que d'autres segments, donc pas ceux qui se développent rapidement, ont été étals pendant deux ans. En ce qui concerne maintenant les ventes like for like, nous avons plus 15% sur deux ans et les autres segments, moins 1% en deux ans. Donc, vous voyez, surperformance d'une certaine manière d'environ 7 ou 8% par an depuis deux ans pour ces segments qui se développent très rapidement. Et les trois segments, de toute façon, les data centers, Elliott et Green, ont vu une croissance quasiment égale, à la même vitesse. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Gaël Debray, Deutsche Bank. Je vous en prie, monsieur. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Première question. La dynamique des prix. Étant donné la situation actuelle, est-ce que vous voyez moins maintenant de changements de grands projets? Est-ce que la dynamique de prix a vraiment changé? Est-ce que c'est facile encore pour vous d'augmenter les prix? En fait, la question que je souhaite poser, c'est est-il possible d'anticiper des marges plus élevées de façon structurelle à l'avenir alors que toutes vos actions prix verront le jour et lorsque les tensions sur les chaînes d'approvisionnement commenceront à se dissiper? Deuxième question. Là, il s'agit du carnet de commandes. Généralement, je sais que vous ne parlez pas du carnet de commandes parce que vos activités sont à cycle court. Mais ces cycles sont assez inhabituels. Et ce matin, nous avons entendu Siemens qui avait une croissance de 40% de commandes en produits électriques. Pourriez-vous peut-être nous éclairer et nous parler de votre carnet de commandes et le genre de visibilité que vous avez par rapport à il y a un an ou par rapport à vos historiques? Eh bien, Gaël, pour répondre à ces questions, pour commencer. Je dirais que je n'ai pas vu de changement dans le paysage concurrentiel depuis 12 mois, pardon, sur la base de la dynamique des prix. Bien sûr, pour certains, pour les acteurs chinois, c'est plus difficile d'être concurrentiel dans certaines géographies parce que les produits n'étaient pas disponibles. Mais en tout cas, nous n'avons pas vu de nouveaux concurrents arriver ou d'anciens baisser. Donc tous les marchés sont très concurrentiels, bien sûr très sensibles au prix d'une certaine façon, et c'est aussi difficile qu'avant d'être concurrentiel dans le cadre de ces projets. Maintenant, la question était, est-ce que c'est à cause des dynamiques de prix qu'on pourrait avoir une marge supérieure en EBIT? La réponse est non. Nous l'avons dit clairement, lors du dernier CMD en septembre. Et bien sûr, lorsque les matières premières et les composants voient leur prix baisser, nous allons garder, conserver une partie d'augmentation des prix. Nous n'avons jamais baissé les prix d'une année à l'autre, de toute façon. Et lorsque cela arrivera, c'est vrai que nous allons réinvestir une partie de cela dans la croissance. Maintenant, ce que nous disons à long terme, ce n'est pas d'avoir 21 ou 22% de marge EBIT, mais ce n'est pas un chiffre magique, là, qu'on sort du chapeau. Nous pensons que c'est le meilleur équilibre, ce que nous vous avons donné, entre la création de valeur et la croissance. Et si, à long terme, nous avions 21-22% d'EBIT, je pense que, dans ce cas-là, ça voudrait dire que notre croissance serait un peu grevée et où nous ne pourrions pas nous développer très rapidement. Ce serait un peu risqué. Donc, c'est vrai, à un moment, dans ce cycle, nous aurons l'avantage de la reprise des matières premières et des composants lorsque la situation s'améliorera, mais notre stratégie est de réinvestir cela dans la croissance pour que la top line, les ventes, se développent plus rapidement. En ce qui concerne maintenant le carnet, eh bien, un carnet de commandes, malheureusement, bon, vous savez, nous avons un carnet de commandes, mais ce backlog, ce carnet est peut-être avec des commandes à livrer plus rapidement. Nous avons quelques difficultés à servir nos clients parce que, vous savez, il y a des problèmes du côté ressources, une certaine viscosité, et donc nos carnets n'ont rien à voir avec ceux de Siemens, par exemple. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Nous, ce que nous disons comme cible, c'est une croissance organique qui ne se base pas sur le carnet de commandes, mais plutôt sur les discussions avec les clients, analyse des chiffres macro, les réactions de nos filiales, de nos spécialistes. Et voilà, il y a toujours cette incertitude habituelle liée au modèle économique de Legrand. Merci, merci beaucoup. Très clair. Puis-je poser une question de suivi concernant les restructurations pendant ce trimestre? Je crois qu'il s'agit de 20 millions en gros. Pour ce trimestre, si je prends le chiffre total, nous avons 35 millions pour l'année de frais de restructuration. C'est un peu supérieur aux 20-25 que vous aviez comme fourchette autrefois. Pouvez-vous nous expliquer peut-être ce que vous cherchez à faire? Oui, bien sûr. Bon. Premièrement, attention, il ne faut pas trop se concentrer sur le calendrier des restructurations. Parfois, vous avez une grosse restructuration pendant un trimestre et puis rien le trimestre suivant. Ce qui compte, c'est le niveau annuel de charge de restructuration. C'est vrai que généralement, chez Legrand, nous avons entre 20 et 30 millions d'euros de charges de restructuration par an. Nous avions 76 en 2020 millions d'euros parce que nous voulions accélérer les restructurations. Et en fait, le point d'atterrissage, c'était 34 millions d'euros en 2021. Donc, vous voyez, un petit peu au-dessus de la moyenne historique. Eh bien, que dire? Vous savez, nous avons en gros 120 sites industriels dans 30 pays environ. Et en 3 ans, nous avons plus ou moins multiplié par 2 le nombre de sites que nous fermons tous les ans. Nous avions l'habitude de fermer en moyenne 5 sites par an, et maintenant le chiffre est passé de 5 à 10 par an. Donc la restructuration est un peu supérieure en 2021 par rapport aux années précédentes, notamment 2020, et ceci reflète cette stratégie qui vise à accélérer un petit peu notre optimisation d'empreintes sur la base du nombre de sites. Merci beaucoup. Maintenant, que va-t-il se passer en 2022? Eh bien, il y a toujours des incertitudes liées au modèle économique. Nous n'allons pas arrêter les restructurations si nous atteignons 30 millions d'euros. On pourrait encore avoir 35 millions, 40 millions si c'est nécessaire. Mais en tout cas, on pourrait prendre entre 20 et 30 comme fourchette. Voilà, la fourchette habituelle pour les années à venir serait entre 20 et 30 millions. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Éric Lemarieux. CIC Market Solutions. Je vous en prie. Merci. J'ai deux questions à poser. Premièrement, les segments qui se développent rapidement. Quelle est la rentabilité de ce type d'activité? Est-ce que les marges sont supérieures à vos marges habituelles grâce aux augmentations de prix, ou est-ce que c'est plus bas parce que vous auriez des coûts R&D? Première question. Deuxième question, les produits connectés. Est-ce que cette année, vous allez les livrer sur la base des nouveaux protocoles qui existent? Eh bien, pour répondre à la première question, vous savez, les leviers sous-jacents à cette rentabilité ne sont pas liés, comment dire, aux produits qui font partie des segments qui se développent rapidement ou s'ils sont traditionnels, c'est la part de marché. Donc, si vous avez un produit qui a une forte part de marché, dans ce cas-là, vous aurez plus de 20% de marge d'EBIT, que ce soit un segment qui se développe rapidement ou un segment traditionnel. Si vous avez un produit où vous avez une part de marché plus basse, la marge sera plus basse. Ce qui compte, c'est donc la part de marché. Et si j'étais là pour vous donner un chiffre comme ça, vous savez, nous avons 2/3 de nos ventes avec des produits qui sont soit numéro 1, soit numéro 2 sur leur marché respectif. Ce qui veut dire qu'en tout, nous avons 200 positions de leadership dans quasiment 50 pays. Sur ces 200 positions de leadership, bon, je n'ai pas tout calculé, pas encore, mais en tout cas, il y a beaucoup de positions qui sont sur des segments traditionnels et beaucoup aussi dans des segments qui se développent très rapidement. Donc, ce qui compte principalement, c'est la part de marché que nous avons. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, les matières. Vous savez, nous sommes dans le cockpit et nous sommes au poste de commande pour les matières. Pour Matter, pardon. Parce que nous sommes dans l'alliance CSA et les premiers produits que nous aurons du côté matière pour le grand NetAtmo, avec le protocole Matter, ce sera à la mi-2022. Donc, c'est Matter et pas matière. Donc, Matter, pour nous, c'est une évolution extraordinaire. Le fait que les produits ne communiquaient pas les uns avec les autres, et dans ce cas-là, les clients devaient se concentrer sur les solutions propriétaires. Eh bien, cela limitait la croissance de la domotique intelligente. Maintenant, avec ces nouveaux protocoles pour les utilisateurs, nous pourrons avoir des produits A, marque A, qui communiquent avec des produits B, marque B, et cela améliorera l'expérience client, et je pense que cela va augmenter le taux de pénétration pour la domotique intelligente, Smart Home. Nous accueillons les bras ouverts ce sujet Matter et ce protocole Matter.
Et le lancement des produits est prévu pour quand? Milieu 2022. Et s'agissant de la gamme de produits, je vous verrai ça dans quelques mois. en ce qui concerne les prix et la pression. Alors, 2% pour les prix et quasiment 5% pour le coût des composants et des matières premières. Et j'insiste vraiment là-dessus. D'ici un an, on reparlera de l'impact sur les prix de ces coûts des composants et matières premières. Et je peux parier avec vous que ce ne sera pas plus 2% et plus 5%, c'est certain. Une autre question, Lister Listy, de Société Générale. Vous avez la parole. Pour mieux percevoir ce que vous pensez de votre stratégie des prix pour 2022 entre la protection de votre compétitivité et la profitabilité. J'ai bien compris ce que vous avez dit au sujet des prix et des prix des matières premières et des composants, mais pensez-vous qu'il y aura une compensation en 2022, ne serait-ce que partielle, comme vous l'avez fait en 2021? Deuxième question. Vous n'avez pas autant augmenté les prix que certains de vos collègues. Vous avez évoqué votre position très concurrentielle. Mais s'agissant des prix, est-ce que vous pensez que certains se sont surpositionnés sur les prix? Et peut-être qu'il y aura un moyen pour vous d'en tirer avantage. Bonjour, Alistair. S'agissant de votre première question, mon objectif, la cible de l'équipe Legrand n'est pas calculer le fait que va compenser X% de l'augmentation des coûts des matières premières. Il s'agit de toute façon de viser un EBIT de 20% approximativement. Donc il y a plusieurs leviers qui peuvent être actionnés. On peut jouer sur les prix, sur les volumes, sur le contrôle des coûts, sur les restructurations, sur les mix et sur la valeur ajoutée, sur la productivité, l'industrie 4.0. Ce sont tous les leviers qui sont à notre disposition. Et c'est mon horizon. Nous allons tout utiliser pour atteindre ces 20%. Tout en ayant une croissance. Je ne peux donc pas apporter de réponse définitive à votre question. Nous allons, au fil de l'eau, décider de nos prix en fonction de ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs de rentabilité, de profitabilité, sans altérer notre position concurrentielle, notre avantage concurrentiel. Cette bonne place sur le marché face à nos concurrents ne vient pas uniquement des prix. On est considéré comme étant l'un des acteurs les plus chers dans son métier. Et c'est une position que nous avons construite par les marques, par des produits de qualité, etc. Et nous ne voulons pas augmenter nos parts de marché par une réduction systématique des prix. Bien entendu, il faut que l'on reste concurrentiel et c'est pour ça que les prix n'ont pas fortement augmenté en 2021. Mais je ne pense pas que nous aurions gagné une part de marché significative. Le gain en termes d'avantages concurrentiels vient de différents facteurs. C'est parce que nous avons des secteurs à forte croissance. Cela nous a beaucoup aidé. Un très fort renouvellement de catalogue produits dans certaines régions, y compris pour tous les systèmes de câblage, par exemple. Nous avons tout renouvelé en France et en Italie, qui sont deux gros marchés, Legrand. Et nous avons gagné des parts de marché significatives en France et en Italie. Il y a aussi le fait que nous avons maintenu un service clientèle malgré la pandémie. L'année dernière, nous n'avons pas fermé nos centres de logistique. Même en mars et avril 2020, nous avons ouvert très tôt ces sites. Cette année, malgré la rareté des ressources, nous avons essayé de répondre du mieux possible aux attentes de nos clients. Nous sommes toujours présents en front office. On y investit toujours. On investit toujours dans le numérique également. Et pour toutes ces raisons, je pense que dans bien des pays, dans bien des régions, nous avons gagné des parts de marché. Je peux vous donner un très bon exemple. Le niveau d'inventaire de stock par rapport au chiffre d'affaires a augmenté l'année dernière par rapport à 2020. Il était quasiment de 18% l'année passée, contre quasiment 14% l'année précédente. Donc, une augmentation de quasiment 4 points dans ce ratio, dans ce rapport entre les stocks et le chiffre d'affaires. Bien entendu, il y a une raison technique à cela, qui représente environ un point de l'effet de conversion, l'effet périmètre à 1,5 uniquement du prix des matières premières et de leur pondération, de leur calcul dans le bilan par rapport à la moyenne du résultat, mais c'est quasiment 1,5% de cette variation du rapport stock au chiffre d'affaires qui représente 10% qui représente 10% des stocks de l'année dernière par rapport à l'année précédente. Comme je l'avais dit dans les conférences précédentes, nous avons délibérément décidé d'augmenter nos stocks, d'avoir plus de stocks, parce que compte tenu des difficultés que l'on rencontre à trouver ses composants et ses matières premières, avoir une meilleure couverture de nos stocks était un must pour pouvoir continuer à répondre aux attentes de nos clients. Donc, c'est un levier, outre les prix, qui nous ont permis en 2021 d'avoir une croissance supérieure à celle du marché. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Autre question. André Kuchnit de Crédit Suisse, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Quelques questions de suivi s'agissant de vos niveaux de stock. Qu'est-ce qui est perçu comme étant normal par rapport à ce que vous avez dans les canaux, dans les tuyaux actuellement? En 2021, nous n'avons pas constaté de phénomène significatif de déstockage ou de restockage majeur. Certains auraient bien voulu reconstruire les stocks, mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'il était difficile d'obtenir auprès des fournisseurs, y compris Legrand, les matériaux nécessaires pour reconstruire ces stocks. Donc, une fois encore, de notre fenêtre, ça reste limité. Nous n'avons pas toute la visibilité du niveau de stock de nos clients, mais nous n'avons pas constaté de déstockage ou de restockage significatif. Et je pense que ce niveau n'est pas très élevé pour Channel compte tenu de ce que l'on a observé ces deux dernières années. Merci. Et pour les prix, prévoyez-vous planifiez-vous une augmentation des prix dans un avenir proche, au mois de janvier, par exemple? Est-ce qu'il y en a une? Ce n'est pas quelque chose qu'on décide un jour et qui s'applique toute l'année. C'est quelque chose que l'on revoit quotidiennement. Dans certains pays, il y a eu une augmentation de prix en janvier. Certaines augmentations sont prévues dans diverses régions pour février. On peut accorder parfois des ristournes à nos clients ponctuellement. C'est des choses qui varient, qui changent quasiment au quotidien. Mais pour répondre à votre question, effectivement, il y a eu une augmentation de prix de certains produits dans certains pays en janvier. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez comme inflation en 2022? Cela dépend des géographies, les États-Unis notamment. Lorsque vous avez un taux de chômage aussi bas et autant de personnes qui quittent le marché du travail, cela signifie qu'il y aura une inflation, effectivement, une inflation sur le marché du travail. Cela s'observera également dans certaines nouvelles économies. En Europe, cela devrait être plus limité compte tenu du taux de chômage, mais ce sera probablement plus élevé que d'habitude, notamment avec la question des salaires. Face à cela, on peut toujours jouer sur la productivité. C'est quelque chose auquel qu'on peut faire face. Ça n'a pas l'air de trop vous inquiéter. Eh bien, cela fait partie de l'environnement inflationniste dans lequel il faut gérer. Donc, les coûts de l'énergie augmentent, le coût du transport augmente, les coûts des matières premières et des composants. Pour le transport, je crois que c'est plus de 3% de notre chiffre d'affaires. Et les salaires, et voilà, donc tout augmente. En même temps, la demande se tient, se maintient plutôt bien. On peut jouer sur les prix. On a beaucoup d'actions de productivité qui sont en cours, des programmes de restructuration. Donc, c'est le monde d'aujourd'hui et il faut juste s'en accommoder. Une dernière question. Ce que vous avez dit au sujet des positions de leader que vous avez dans le monde, vous avez évoqué 200. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cela a évolué ces deux dernières années? Je n'ai pas compté. Ce sont peut-être 1000 positions. Si l'on suppose, par exemple, que vous vendez deux dispositifs de câblage dans un pays éloigné, c'est, on a une centaine de familles de produits dans 180 pays. Donc, cela veut dire beaucoup de positions de leader. Celles qui comptent les plus sont celles qui sont significatives et que l'on peut appeler des positions de leader sur nos marchés. Cela concerne environ deux positions. Cela représente environ les deux tiers. On n'a pas envie de monter à 80%. On se satisfait de ces deux tiers par rapport à l'ensemble de notre portefeuille de produits. Nous avons des positions qui sont très bonnes et qui permettent de soutenir notre profitabilité. Ça nous laisse encore un tiers de marge de manœuvre et d'amélioration. Donc, cela répond bien aux besoins du modèle Legrand. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Question. Simon Tennyson de Jefferies, vous avez la parole. Bonjour. Alors, tout d'abord, une question sur vos guidance de croissance. Si l'on considère vos concurrents aux États-Unis, les chiffres sont différents. À votre avis, est-ce que vous allez croître plus ou moins qu'eux dans votre secteur d'activité? Et s'agissant des États-Unis et pour le non-résidentiel, vous avez donné les chiffres pour le quatrième trimestre. Pensez-vous que c'est un secteur qui va augmenter plus en termes de croissance organique? Et peut-être que vous l'avez dit, mais ça m'aura échappé. Pour le troisième trimestre, vous avez parlé d'une augmentation du prix des matières premières qui est passé à 17%. Est-ce que vous avez une idée pour le premier trimestre 2022? Alors, plus on vous en donne, plus vous en demandez. Hein, vous êtes gourmand. Alors, s'agissant des États-Unis, si vous nous comparez à des entreprises comme Eaton, Advent, Vertiv et d'autres, on n'a pas la même exposition sur le même. On n'est pas le même modèle économique. C'est difficile de comparer ces sociétés à Legrand. Je ne peux pas vous dire grand-chose. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est 3 à 7% à l'échelle du groupe. Et là, on n'a pas donné d'orientation géographie par géographie. C'est ce qui nous a été remonté de divers pays, dont les États-Unis, par des experts. Je ne peux pas commenter les indications qui ont été données par nos homologues aux États-Unis pour la tendance entre le troisième et quatrième trimestre en non résidentiel. Je peux vous dire que S1 avait une baisse à deux chiffres, S2 une baisse à un chiffre, peu de différence entre le troisième et le quatrième trimestre, mais ne tirez pas de conclusions hâtives et en vous disant qu'il y a un plateau, que les choses ne s'améliorent pas, les résultats trimestriels ne sont pas significatives. Vous pouvez avoir du déstockage, du restockage, un jour où il y a plus, le lendemain où il y a moins, et la rareté des ressources et la difficulté de s'approvisionner a des conséquences également. Donc, pas de variation entre le troisième et le quatrième trimestre, mais j'aurais beaucoup de mal à extrapoler ça sous la forme d'une tendance. Pour le premier trimestre, en ce qui concerne les composants, les matières premières, nous n'allons pas donner de chiffres potentiels pour le trimestre. Mais ce qui est évident pour tout le monde, c'est que le premier semestre sera un semestre assez exigeant pour le grand en termes de marge. Parce que le premier semestre 2021 était un très bon semestre. Si je ne me trompe pas, on est à 22%. Et 20,5% en 2019. Et donc un EBIT très élevé parce qu'il y a eu des résultats intéressants. On a encore une possibilité d'agir sur les prix malgré l'augmentation des composants et des matières premières. Donc, en termes de marge, le premier semestre sera très exigeant pour nous. Bien entendu, ce qui compte pour le grand, c'est les résultats annuels et la performance annuelle. Et nous allons essayer d'avoir cette marge de 20% en assurant cet équilibre entre les prix et différents leviers. Pensez-vous que le non-résidentiel américain va dépasser votre chiffre d'affaires organique et est-ce que vous allez aller au-delà de vos 3 à 7% de chiffres indiqués? Ce serait logique, ce que je peux vous dire, qu'il y a une certaine légitimité à avoir cette croissance. Mais tout dépend des variants du coronavirus. Je ne dis pas que cela augmente notre confiance, mais en tout cas, s'agissant de ce segment de marché, nous avons constaté qu'il y avait des poches de croissance dans le non-résidentiel. Si l'on considère l'audio, la vidéo, les produits audio-vidéo, y compris les caméras pour les vidéoconférences, par exemple, c'est une croissance à deux chiffres dans le non-résidentiel. Donc, je pense que l'on aura une capacité à trouver d'autres poches de croissance ou à profiter du redressement de la reprise économique. Maintenant, s'agissant de la rareté des ressources, nous avons, on ne sait pas encore si cela va connaître une croissance plus rapide que le reste du groupe. Mais c'est une hypothèse. Merci. Merci beaucoup.
Just come back. Ah, je reviens peut-être à la première question. Comparaison entre le grand et les pairs qui sont cotés, les entreprises cotées qui nous ressemblent. Eh bien, faites attention à quelque chose. Attention à la base de comparaison, vous savez. Si l'on regarde 2022 par rapport au réalisé 2019, vous verrez. Nos chiffres, nos objectifs eh bien, il n'y a pas de quoi en rougir par rapport, par exemple, à des entreprises qui nous ressemblent et qui sont cotées aux États-Unis. Très bien, merci. Nous avons une autre question. James Moore, Redburn, je vous en prie. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une première question à poser concernant votre cœur de gamme, c'est-à-dire pas les segments qui se développent rapidement. Vous avez dit que chiffre d'affaires organique, moins 1% sur 2 ans. Si nous prenons l'hypothèse suivante, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais l'hypothèse suivante qui nous dirait que 2 ans de mix prix de 4% cumulé pour le cœur de gamme, j'imagine que les volumes ont baissé en gros de 5% en 2 ans. Et si je regarde votre mix, nous aurions un chiffre de 1-2%. Je ne veux pas obligatoirement un chiffre précis, mais ce que je souhaiterais savoir, s'il y a des facteurs structurels à la baisse dans votre cœur d'activité qu'il faudrait prendre en compte. Ça, c'est ma première question. Eh bien, vos chiffres sont corrects. Et les produits infrastructure ont baissé de 1% en 2 ans à périmètre constant, like for like. Mais je dirais qu'il n'y a pas de raison structurelle pour lesquelles il devrait y avoir une baisse pour ces produits. Parce que si l'on regarde le fait qu'il y a un besoin croissant d'électrification dans le monde entier, dans ce cas-là, il y aura un besoin en augmentation de produits traditionnels. Il est vrai qu'il y a des effets mix liés à notre panier entre les segments traditionnels et les segments qui se développent rapidement. Chaque fois qu'on vend un thermostat connecté par rapport à un non connecté ou bien entrée de porte connectée par rapport à autre produit similaire non connecté ou produit de câblage par rapport à un autre non connecté, eh bien ça, c'est une vente de plus sur le segment qui se développe rapidement et une de moins sur le segment traditionnel. Donc oui, il y a une forme de cannibalisation, mais la cannibalisation est saine. C'est ce qu'on appelle l'effet mix. Et donc, cela ne nous préoccupe absolument pas. Et il n'y a pas vraiment de raison structurelle pour lesquelles les produits traditionnels devraient baisser. Je crois qu'au contraire, il y aura plus besoin systèmes de gestion de câbles, de composants, de produits de câblage et de connexion. Merci. Deuxième question concernant l'innovation. Si je regarde la R&D par rapport au chiffre d'affaires, vous avez une baisse en dessous de la cible de 5% pour 2021. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Je me demandais pourquoi... nous pourrions éventuellement choisir 5% en 2022 pour le même rapport R&D par rapport au chiffre d'affaires. À quoi ressemblera-t-il cette année? La seule raison pour laquelle il y a une baisse, c'est qu'il y a une forte augmentation des ventes. Et donc, les dépenses... Bon, je vais vous dire comment on gère les charges sur 2 ans. Les chiffres d'affaires a augmenté en gros de 4% à périmètre constant. Du côté production et dépenses de production et d'expenses générales SG&A, nous avons un chiffre qui est le même pendant 2 ans à périmètre constant. Et en fait, ici, c'est un mélange de coûts qui ont augmenté du côté digital, numérique et R&D, et vous avez également des dépenses qui ont baissé sur tout le reste. Ce qui veut dire que nous avons protégé et sauvegardé la R&D. C'est une décision que nous avons prise à bon escient, de ne pas réduire les charges R&D, parce que nous pensions que ce serait fait au détriment d'une croissance à venir. Bien sûr, si vous avez votre CA qui augmente de 13%, eh bien dans ce cas-là, ce rapport baisse un petit peu, R&D sur CA. Mais nous serons à 5%, peut-être 5,5%, à long terme, peut-être 4,5%. Donc, vous voyez, 5% pour nous, R&D sur le CA, c'est de ce dont nous avons besoin pour notre modèle économique. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. Maintenant, je suis vraiment navré, mais je m'étais engagé vis-à-vis de la presse et j'ai un entretien dans 5 minutes. Je vous laisse en de bonnes mains avec Franck et Roland. Bien sûr, ils vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous voudrez poser. Et en tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir participé à cette conférence téléphonique. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, je peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Bien. OK. question de Lebern Christian. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour répondre à la question de Lucie, tout à l'heure, vous avez parlé de composants avec une incidence sur votre chiffre d'affaires et conversion chiffre d'affaires. Pouvez-vous nous parler de l'acceptation des clients qui sont capables d'attendre ou est-ce qu'il y aura peut-être des clients qui vont passer à la concurrence? Ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a des clients qui font des pré-achats, ce qui amènerait à des inflations sur le marché, à de l'inflation sur le marché en plus des manques de produits. Merci Christian pour cette question. Eh bien, pour parler de la supply chain, l'approvisionnement, ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que le troisième trimestre, il y a plus de pression sur le marché. Vous vous souvenez, en début d'année et fin de l'année dernière, il y a eu un début de pression. Et puis, en début 2021, nous étions préparés du côté processus. Et notre R&D, de plus en plus, se base sur ce qu'on appelle le redesign to supply. Donc, reconception pour répondre à la prestation de service. Le S1 était correct et nous avons vu les effets sur la chaîne d'approvisionnement pendant le S2. Ensuite, pour le troisième et quatrième trimestre, il n'y a pas eu détérioration de la situation concernant les matières premières. Et Benoît vous a déjà dit quels étaient les composants qui ont été les plus affectés. Maintenant, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, bien, c'est difficile d'évaluer tout cela parce que, comme vous l'avez dit, on peut peut-être ne pas vendre autant que nous le voulions, mais peut-être que nous pouvons vendre d'autres produits grâce à l'effet qu'on appelle le sugar effect, l'effet sucre. Lorsqu'il n'y a plus de sucre, les gens achètent du sucre. Donc vous voyez, ils peuvent passer des précommandes, les fournisseurs. Et ce que nous avons dit dans ce cas-là, c'est que de façon générale, eh bien, il s'agit de quelques dizaines de millions de ventes potentielles que nous n'aurions pas sur une année. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire non plus que la part de marché va diminuer, si c'est votre question. Donc, premièrement, nous ne pensons pas que nous ayons perdu du tout de part de marché. Au contraire, nous nous sommes bien débrouillés, je pense, dans cet environnement. Nous avons anticipé, comme vous l'avez dit, et vous avez vu aussi, que nous avons une meilleure couverture, notamment sur la base de nos stocks, pour être préparés. Donc, ce que vous entendez des concurrents sur le marché, c'est que tous les concurrents souffrent à cause de la chaîne d'approvisionnement. Et pendant notre T3, tout le monde a réagi en disant « bien, vous vous êtes bien débrouillés dans cet environnement ». Nous n'avons pas perdu de part de marché, je crois. Et quelle était la dernière partie de votre question? Voyons voir. Est-ce que les clients attendraient un peu plus longtemps? Ils sont capables d'attendre des livraisons ou pas? Est-ce qu'on a perdu peut-être quelques projets? Eh bien, non. Rien d'important en tout cas. Et aujourd'hui, chacun est prêt à attendre un peu plus. Nous n'avons pas vu, en fait, d'annulation de projets à cause de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Vous savez, les problèmes sur la chaîne d'approvisionnement touchent tout le monde. Ce n'est pas uniquement les composants ou les matières premières. Ça peut être un manque de main-d'œuvre. Vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis et au Royaume-Uni en ce sens. Et parfois, c'est un manque d'installateurs, parfois, c'est un manque de conducteurs. Et voilà. Mais les clients sont plutôt patients quand il y a des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Merci. Question de suivi. De façon générale, combien de temps vous faut-il pour livrer un produit? Est-ce que le délai va changer beaucoup ou pas? Eh bien, ça dépend. Ça dépend du composant. Si vous prenez des composants électroniques, le temps de livraison aura été multiplié par deux. Aujourd'hui, pour des composants spécifiques, nous avons des visibilités côté volume de 12 à 18 mois. Donc, il y a une augmentation, c'est vrai, à cause des achats, du transport et des flux entre la Chine et les États-Unis. Et c'est aussi pour cela que notre couverture des stocks a augmenté. c'est l'effet mécanique de cette augmentation des délais de livraison. Merci. Nous avons une autre question. Andreas Willi, JP Morgan, je vous en prie. Merci. Bonjour. J'ai des questions concernant l'augmentation de volume. Si l'on regarde l'augmentation séquentielle des volumes et l'effet de base en 2018-2019, avec un ralentissement en 2021, si je regarde du côté de votre guidance, avec la contribution prix, les volumes, la croissance des volumes va continuer à s'accélérer, je pense. Quels sont les leviers spécifiques? Pourquoi il y a eu un ralentissement et tout d'un coup, une augmentation progressive? Si je regarde maintenant la rentabilité, en 2021, quel est l'avantage d'avoir surproduit par rapport à la demande pour avoir des stocks de produits finis en augmentation pendant l'année? Merci. Merci d'avoir posé ces deux questions, Andreas. Ce qui concerne l'augmentation de volume, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements qui aient eu lieu pendant l'année. Si on compare la situation à 2019, 2019, c'est l'année qui vraiment a du sens pour mesurer tout cela. La croissance volume est plutôt stable et cohérente par rapport à ce que nous aurions peut-être en 2022. En 2022, nous avons 5%, c'est le milieu de la fourchette de 3-7, c'est plutôt donc positif. Bien sûr, l'augmentation de prix nous aidera, mais il n'y a pas de forte accélération du côté volume. Maintenant, j'en arrive à la deuxième question. L'augmentation des stocks nous a aidé pour la marge avec notamment 20 points de base pour l'année pleine. Ce n'est pas énorme. Par rapport à l'amélioration constatée pendant toute l'année. Mais en tout cas, pour revenir à la question maintenant de l'augmentation des volumes, il n'y a pas eu énormément de volume pendant 2 ans. En fait, c'est 0,4% entre 2021 et 2 ans avant, 2019. Mais il y a accélération dans un environnement inflationniste. Donc, il y a des hypothèses que l'on peut faire pour le chiffre de produits vendus, mais l'augmentation n'est pas énorme. Merci. Une autre question. Kepler Chevreux, William, je vous en prie. Bonjour, Frank, Ronan et autres. J'ai une question, moi aussi, concernant les stocks et le BFR. Pouvez-vous nous éclairer pour nous dire comment vous avez pris cette décision d'augmenter les stocks pour avoir des niveaux de service à un niveau supérieur partout dans votre groupe? Je sais que vous nous avez parlé des avantages d'une meilleure gestion des coûts. Et deuxième question concernant le besoin à fonds de roulement. J'ai l'impression que dans cet environnement économique, il y a de nombreux groupes qui parlent de surcommande et du fait que il y a même certains distributeurs qui passent des commandes dans la supply chain. C'est contre-intuitif parce que vous nous dites que vos distributeurs, eux, ont des niveaux de BFR normalisés, ou en tout cas, vous nous dites que peut-être, vous n'avez pas une augmentation des commandes ou augmentation des stocks du côté client. Pourriez-vous peut-être nous donner la quadrature du cercle là-dessus? C'est-à-dire, que disent vos distributeurs? Que pensent-ils des services que vous leur proposez? Et pourquoi vous dites que les niveaux de stock sont plus ou moins à un niveau normal et non pas très élevé dans votre chaîne d'approvisionnement? Alors, très bien, je vais répondre à la première question déjà. Concernant peut-être ce que j'appellerais les géographies où il y aurait eu des augmentations de couverture par rapport à la moyenne du groupe. Non. L'un dans l'autre, c'est une stratégie qui s'applique dans toutes nos géographies, tous les pays. Et cela s'applique à toutes les sections des stocks, les matières premières et aussi les produits finis. Il y a une augmentation de la couverture, en gros, de 10%. Mais tout ceci est un plan qui couvre toutes les géographies, tous les aspects de nos stocks. En ce qui concerne les niveaux d'inventaire pour les distributeurs, là, je dirais que c'est une question qu'il faudrait plutôt leur poser à eux plutôt qu'à nous. Nous ne savons pas quels sont leurs niveaux de stock. Nous savons ce qu'il y a en carnet de commandes, que nous ne pouvons pas livrer tout à 100%. Cependant, lorsque c'est possible, et c'est logique, ils vont peut-être reconstituer leur stock. Si l'on sait les chiffres de sell-in et de sell-out pour un canal ou pour une géographie donnée, eh bien, nous ne voyons pas, en fait, de reconstitution matière ou produit du côté distributeur. Donc, je ne peux pas vous donner l'équation complète, mais selon l'information que nous avons, nous ne voyons pas effectivement d'augmentation de leur côté. Merci, merci, ceci m'aide. J'ai une autre question à poser, si je peux la poser. Deux questions. Une concernant vos plans pour 2022, rentabilité des stocks. Vous allez augmenter, garder le même niveau ou baisser les stock returns. Deuxièmement, les brevets aux États-Unis. Que pensez-vous de l'Europe? Je sais que les effets de la COVID en Europe orientale aujourd'hui ont des conséquences assez fortes sur l'Europe occidentale et en Asie du Sud-Est. Qu'en est-il du côté évolution des volumes sur les marchés Europe orientale et Asie du Sud-Est? Bien. Concernant les stocks 2022, il n'y a pas de chiffre vraiment que je puisse vous donner. Par exemple, stock par rapport au chiffre d'affaires en 2022. En tout cas, ce qui s'applique aujourd'hui s'appliquera en 2022. Nous allons toujours nous concentrer sur la part de marché. C'est ça la priorité. Nous n'avons aucunement besoin de beaucoup baisser cette situation. Nous allons conserver nos priorités. Nous n'avons pas de problème de trésorerie ni de conversion de cash flow libre. Ce qui compte, c'est d'exécuter notre stratégie du côté vente. Et maintenant, ceci étant dit, le modèle à moyen terme du côté cash flow libre est toujours d'actualité, malgré les niveaux de stock en fin 2021. Le cash flow libre normalisé, le cash flow libre, sont toujours à de très bons niveaux. Maintenant, pour vous parler peut-être un petit peu de 2022 et de nos marchés. Bon, on n'a pas de chiffres par géographie, mais en tout cas, en ce qui concerne l'Europe, l'Europe s'est très bien débrouillée depuis 2 ans. De façon générale, en 2020, 2019, par rapport à 2021. 2021 par rapport à 2019, plutôt. Très bonne performance, mais notamment sur le marché Resi. Et il y a aussi le lancement des produits Elliott qui nous l'ont aidé. Et pour l'instant, la COVID n'a pas d'effet structurel en Europe. Il y a juste une désorganisation de la chaîne d'approvisionnement et les installateurs qui essaient de terminer leurs travaux. Il y a quelques manquements du côté main-d'œuvre. voilà ce genre de choses que nous voyons et qui a une incidence sur les entreprises, mais il n'y a pas vraiment d'effet énorme qui mettra en danger notre croissance en Europe en 2022. Et maintenant, pour parler de l'Asie et du reste du monde, eh bien, je dirais, nous avons le même niveau de confiance du côté de l'Asie. Sauf peut-être la Chine, la situation en Chine. Ce n'est pas une grosse exposition pour notre groupe, c'est entre 4 ou 5% de notre chiffre d'affaires. Mais en tout cas, il y a une question peut-être concernant la Chine à cause de deux choses. Premièrement, la question du fait que de long development, ce n'est pas bon pour l'activité. Et deuxièmement, la politique zéro Covid qui s'applique en Chine. Et les perspectives sont donc positives dans toutes les géographies en 2022. Et la Chine peut-être est un peu plus risquée que d'habitude.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Lemery, je vous repasse la parole pour la conclusion. Merci. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette conférence téléphonique. Nous apprécions le temps que vous nous avez consacré. Je sais que c'est une journée très chargée. Et bien entendu, si vous avez d'autres questions, Ronan, Samy ou moi-même sommes à votre disposition pour y répondre. Ceci conclut notre conférence téléphonique avec ses perspectives positives pour 2022 et ses très bons résultats 2021, nos perspectives 2022 étant tout à fait en ligne avec ce qui avait été indiqué lors de notre journée investisseur. Merci et à bientôt. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez vous déconnecter. Merci.